C'est une émission spéciale ce soir, on vous l'a dit, puisque l'émission se prolonge avec un débat organisé par la LICRAVO, la branche vaudoise de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et ce sera avec toi, Guillaume, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es secrétaire général de la LICRAVO et c'est toi qui vas modérer ce débat ce soir.
Exactement, et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci pour cet accueil.
Et puis alors, le thème, Guillaume, ce soir, c'est le racisme chez les jeunes. Quelle réponse politique, comment lutter contre le racisme au sein de la jeunesse?
En effet, c'est la question que nous allons essayer de poser ce soir à nos invités, en espérant pouvoir prolonger vos premières réflexions.
Voilà, donc c'est parti pour une heure et demie de débat avec toi. Guillaume.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir en direct de la radio Django et du Centre socioculturel Pôle Sud à Lausanne, en compagnie du public et de nos invités politiques, conviés ce soir pour débattre du racisme chez les jeunes. Ce débat se déroule dans le cadre de la 10e édition de la Semaine d'Action contre le racisme, qui aura lieu, je vous le rappelle, du 15 au 21 mars à Lausanne. Mais avant de présenter ceux qui animeront notre table ronde de ce soir, je tiens d'abord à introduire cette rencontre par quelques mots sur cette Semaine d'Action contre le racisme qui nous réunit aujourd'hui. Comme les années précédentes, cette semaine aura lieu dans plusieurs cantons suisses, autour du 21 mars, une date importante qui marque la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, proclamée en 1966 par l'ONU, dans le but, à l'époque, de commémorer le massacre de Sharpeville en Afrique du Sud. Cette semaine vise plus concrètement à sensibiliser la population en matière de racisme et valorise de nombreuses actions préventives, que ce soit des conférences, des débats, des expositions, des films ou encore du théâtre, où sont abordées les larges problématiques liées aux discriminations raciales par les différentes associations participantes. Pour plus d'infos sur le 21 mars et sur le programme des différents événements à venir, qui, je vous le rappelle, sont tous publics et gratuits, vous pouvez consulter le site www.semainecontreleracisme.ch. Cette année, la Semaine d'Action contre le racisme se propose d'intervenir sur un sujet complexe, mais malheureusement d'actualité, au vu des nombreuses votations récentes traitant de la question des étrangers, celui du racisme chez les jeunes. En Suisse, un quart des jeunes de moins de 20 ans n'a pas de passeport helvétique, près d'un couple sur deux est constitué d'un partenaire étranger et les enfants grandissent dans des familles binationales. Les atouts du multiculturalisme peuvent paraître évidents, comme le plurilinguisme sur le marché du travail, par exemple. Cependant, en Suisse comme en Europe, plusieurs facteurs socio-économiques indiquent que le contexte actuel penche vers le repli identitaire plutôt que vers la célébration de la diversité. En ce sens, la réalité sociale vécue par les jeunes peut se traduire par le conflit, résultant parfois d'un déficit en matière d'égalité des chances. Cette réalité est celle que nous désirons aborder ce soir en compagnie de représentants de quelques non-exhaustives jeunesse politique vaudoise dans le but de parler du racisme chez les jeunes et bien évidemment d'aborder les réponses politiques qu'envisagent nos invités présents ce soir. Voilà, pour ce faire, il est temps désormais de revenir vers nos invités et de les présenter brièvement. Avec nous ce soir, Aline Rion, des Jeunes Verts Vaudois, Loïc Autier, tout récemment nommé président des Jeunes Libéraux Radicaux, Johan Tsilly, président des Jeunes UDC, et enfin Romain Piou, porte-parole de la Jeunesse Socialiste. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Je vous souhaite la bienvenue autour de cette table et vous remercie chaleureusement d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous commençons ce débat par un premier axe dédié aux questions du racisme ordinaire. Celui que certains jeunes, on en a parlé tout à l'heure, vivent au quotidien et parfois de façon répétée tout au long de leur scolarité, voire même après. En effet, nous savons que la plupart des discriminations qui touchent les jeunes ont lieu à l'école et que ces discriminations naissent parfois du port de certains signes d'appartenance à une origine étrangère, par exemple, ou à une religion. Rappelez-vous de l'affaire des chemises Edelweiss dans le canton de Saint-Gall, par exemple. D'où ma question, faut-il interdire à l'école ces signes distinctifs ou au contraire serait-il dangereux de vouloir à tout prix gommer nos différences? Romain Piou.
Disons qu'on a l'habitude de dire aujourd'hui que l'école est laïque dans la plupart des cantons et c'est vrai que ça c'est important de le relever. Par contre, les jeunes devraient avoir la liberté de pouvoir exprimer leur religion dans leur être, dans leur soi-même. Et je crois que du coup, c'est aussi important, contre la discrimination, de laisser les jeunes pouvoir être ce qu'ils pensent être. Voilà, s'ils sont musulmans et si par exemple une femme musulmane souhaite porter le voile, il faut lui laisser le choix. Si un enfant, j'en sais rien, chrétien, veut porter une petite croix autour du cou, je vois aucun problème. Et je crois que ça aussi, c'est pas incompatible avec l'intégration des gens, étant donné qu'on a beaucoup de cultures en Suisse. Et je crois qu'aujourd'hui, l'important, c'est que les gens se sentent bien dans leur peau. Et pour qu'ils se sentent bien dans leur peau, il faut qu'ils soient acceptés tels qu'ils sont.
Très bien. Dites-moi, Loïc Autier, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Monsieur Pillou ?
Casque nouveau, hop. Alors oui, tout à fait, je crois qu'on sera d'accord sur ce point-là au moins, ce qui est déjà une très bonne chose au niveau de l'école publique. C'est vrai que je crois qu'il ne faut pas surinterpréter certains signes que des personnes peuvent avoir. Si quelqu'un souhaite venir avec un crucifix, ensuite, si certaines personnes souhaitent porter tout autre signe religieux, je ne serais pas contre. Après, il faut toujours faire attention. C'est vrai que souvent, on parle de la liberté religieuse des parents pour, disons, justifier certains signes que pourraient porter les enfants. Il faut aussi voir que, dans certains cas, c'est l'enfant qui se fait imposer, disons, le port de certains signes. Donc, il faut savoir faire toujours un équilibre et entrer dans une discussion sur ce qui semble être le plus important. C'est une discussion avec les parents, disons, en triangle, l'école, parents, enfants, pour essayer de toute façon aussi de dédramatiser toutes ces situations-là, essayer de trouver une solution avant de, comme dans certains cantons ça a pu se faire, avant de passer à l'amende, à la répression, qui ne serait pas forcément une bonne solution. Et ensuite, on parle souvent de l'école publique. Moi, je serais aussi assez en faveur, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais notamment des chèques éducation pour aussi permettre une certaine diversité au niveau de l'école publique. C'est vrai que l'école publique, c'est aussi assez monolithique, et je pense que si on veut adopter plus largement une diversité, le multiculturalisme, mais aussi une possibilité qui serait intéressante d'ouvrir certaines nouvelles écoles auxquelles des catégories de personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder pour l'instant pourraient accéder.
Je vous remercie. Dites-moi, Johan Silly, est-ce que vous prononceriez pour le port de l'uniforme à l'école, par exemple ?
Pour l'instant, nous en étions au signe religieux. Le port de l'uniforme, c'est une question également intéressante. Moi, je pense qu'il faut regarder le débat avec un petit peu de recul. Il faut voir qu'on a, dans le début de ce débat, deux axes. C'est d'un côté la laïcité la plus totale, comme on peut l'avoir dans certains pays qui nous entourent. Et d'un autre côté, la liberté personnelle, poussée à son plus haut niveau. La tentative d'introduire des uniformes dans certaines écoles est une réponse qui est posée pour dire, voilà, contre toutes les disparités, nous donnons cet uniforme pour répondre à un certain nombre de questions. Je pense que on a en Suisse une indépendance des cantons pour le domaine de l'école, de l'éducation. Et d'une certaine manière aussi, les écoles elles-mêmes ont des règlements. C'est pas maintenant à moi, en tant que président du UDC, vaudois de vouloir dire à chaque école, chaque institution, qu'est-ce qu'elles doivent faire. Par contre, j'aimerais vraiment intervenir sur le sujet de la liberté de porter des symboles religieux. Je pense qu'on ne peut pas simplement dire que tout un chacun est libre et écarter cette problématique d'un coup de bras, même si en théorie, je ne suis pas le plus grand opposant à tout signe religieux. Mais il faut d'un premier abord pouvoir différencier quand est-ce qu'un signe religieux est utilisé par simple expression innocente et sincère d'une foi, d'une croyance ou même d'une appartenance culturelle, et quand est-ce qu'il est utilisé pour se démarquer de l'autre, pour créer une différence, pour créer une distinction. J'imagine que là, c'est plutôt du cas par cas, c'est quelque chose qui peut être fait dans l'école, en connaissance de l'élève en question, et regarder si oui ou non son but est d'être lui-même ou si son but n'est de ne pas être les autres. D'une autre manière, on sait également que la liberté religieuse est à 16 ans en Suisse. Peut-on, de ce côté-là, admettre qu'un symbole fort, tel que par exemple le serait le voile islamique, puisse être porté par des jeunes filles qui ont entre 12 et 15 ans ? C'est donc des questions, on va pouvoir en débattre, je ne donne pas ici un avis définitif, mais je pense simplement que d'un revers de bras, nous ne pouvons pas tout de suite écarter tout cela au nom de la liberté religieuse.
Je vous remercie. Aline Rion, le port du voile avant 16 ans, vous en pensez quoi ?
C'est vrai qu'avant 16 ans, ça dépend aussi des parents, comme beaucoup d'autres choses, hein, pas seulement le port du voile, mais la manière de s'habiller, la manière d'étudier. Il y a vraiment plein de choses que les parents choisissent pour les enfants, parce qu'on considère que les enfants ne sont pas encore assez grands pour prendre des décisions sur certaines choses. Et moi, je pense qu'il faut laisser quand même la liberté aux parents de choisir comment leur enfant va s'habiller, quel signe religieux va porter ou non leur enfant. Après, c'est vrai que si c'est vraiment trop imposé et que l'enfant voudrait absolument pas porter tel habit ou tel signe religieux, je pense que c'est aussi en l'acceptant et en pouvant en parler qu'il pourra aussi dire cette injustice-là.
Tout à fait. Romain Piou, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, ce serait un petit peu simplement pour dire que de dire « Ah, avant 16 ans, il faudrait potentiellement... interdire le port du voile à l'école, par exemple, ce serait un petit peu comme dire, et je pense que ça choquerait beaucoup de gens si on disait ça, ah, on devrait interdire le catéchisme, parce que finalement, c'est pas les enfants qui choisissent, c'est les parents. Alors oui, c'est les parents qui choisissent le catéchisme pour l'enfant, très souvent, parce que la religion est aussi une affaire de famille, ça c'est vrai. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le choix de faire ou pas le catéchisme, je ne l'ai pas fait, et je pense que effectivement, si on part du principe qu'on interdit un signe religieux parce que l'enfant ne serait pas assez mûr pour prendre ses décisions soi-même, ben, je pense qu'on peut aussi interdire toute présence de la religion dans le cadre familial et dans toute la chose publique pour les enfants de moins de 16 ans.
Yoann Silly, je vous vois hausser les sourcils.
Oui, je tiens à commencer à dire que je n'ai pas encore prôné l'interdiction d'un quelconque signe religieux. Je disais qu'il fallait construire cette discussion et ce débat. Pour reprendre l'exemple du catéchisme et du fait est-ce qu'un enfant est assez mûr ou pas pour pouvoir s'y rendre, le catéchisme ne se fait pas à l'école, il ne se fait pas en salle de classe. Et il y a quand même une différence, il y a quand même quelque chose à regarder. Un élève, quand il est dans l'adolescence, est dans une période où il se questionne sur qui il est, une période parfois difficile. On sait comme les gens peuvent être cruels et durs. Et par conséquent, je pense que si un enfant, une personne de plus de 16 ans, ou même de moins de 16 ans, a l'intime conviction, l'intime envie de porter ce voile, on peut en discuter, on peut regarder. Je n'ai pas encore un avis définitif, contrairement à la majorité de mon parti. Par contre, on ne peut pas non plus simplement dire c'est aux parents de décider. Et d'une manière générale, on crée une présomption que l'enfant a envie de se démarquer de cette manière de tous les autres et qu'à ce moment-là de sa vie, on peut sans contrôle, lui imposer d'être habillé comme ça. Et je ne pense pas non plus que le contrôle à la maison de l'intention de ses parents, le contrôle systématique, je ne sais pas si c'est policier ou d'une commission scolaire ou même encore avec des écoutes téléphoniques, qu'on pourra arriver à savoir l'intention réelle et la volonté ou pas d'un enfant de venir avec cet habit. Tout ça pour simplifier que ce débat a vraiment une raison d'être et que ce n'est pas simplement encore une énième stigmatisation des étrangers comme on pourrait l'entendre de temps à autre dans les médias.
Très bien. Aline Rion, faire au cas par cas, ça vous paraît réalisable ?
Moi, je pense que si un enfant devait vraiment souffrir de la manière dont il est habillé ou de porter un signe religieux, une croix ou un voile ou autre chose, je pense que les enseignants, les personnes qui sont en charge de l'enfant peuvent le constater et avoir une discussion avec les parents à ce moment-là.
Je vous remercie.
Mais je pense, enfin, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait mon collègue tout à l'heure, par rapport à la diversité à l'école. Et je crois qu'avoir cette diversité, c'est aussi l'occasion d'en parler. Enfin, peut-être les enfants vont des fois avoir des réactions les uns par rapport aux autres. Et je pense que les enseignants, là, ils ont un rôle à jouer dans comment on aborde ces différences, comment on en parle, pourquoi on a ces différences. Et peut-être pas non plus seulement les différences, mais aussi les similitudes. Si on est différent sur certains points, on peut aussi être similaire sur d'autres. Et je pense que on parle beaucoup des différences, mais on oublie souvent les similitudes.
Merci. Donc l'école, on y vient. Hein, on sait que c'est là qu'ont lieu la plupart des discriminations qui touchent les jeunes. Et que ces discriminations, elles sont souvent corrélées à différents flux migratoires qui dépendent d'un contexte géopolitique global. Dans les années 30, les Italiens étaient la cible du racisme. Ensuite, c'était les Espagnols, les Portugais, les Sri Lankais, puis les ressortissants des Balkans dans les années 90. Aujourd'hui, on en arrive à la communauté musulmane, originaire de plusieurs pays différents. Ma question est simple, ne serait-il pas nécessaire d'instaurer davantage d'enseignements scolaires qui viseraient à informer les jeunes de l'actualité politique internationale ? Loïc Coutier ?
Alors honnêtement, je serais vraiment en faveur de tels cours. C'est vrai qu'on connaît, je ne sais pas si ça existe toujours ou si ça dépend aussi de certaines écoles, les cours de citoyenneté que certains d'entre nous ont eu, qui ont eu un effet, sur la durée assez faible pour la plupart. On se rencontre, par exemple, j'ai fait le gymnase, à la sortie du gymnase, beaucoup de personnes ne savent pas, par exemple, ce qu'est le conseil fédéral ou ce genre de choses. Donc de toute façon, il y a un manque qualifié de culture à l'égard de nombreuses choses, que ce soit la politique, que ce soit le monde dans lequel on vit. Et je crois que ça fait apparaître déjà une des premières composantes que l'on trouve dans la plupart des situations du racisme. C'est plus une personne, disons, a tendance à avoir plus une personne de culture générale, plus de personne a connu l'altérité, plus une personne est sortie, disons, de sa zone de confort, le moins elle est raciste en général, ou le moins elle sera, disons, encline à être, en tout cas, xénophobe. Et on voit notamment dans les études qui ont été faites, ou tout ce qui était les recherches statistiques au niveau des initiatives qui ont été lancées par l'UDC, que plus une personne venait, disons, d'un niveau d'éducation faible, et par exemple, plus elle venait aussi d'un endroit plus à la campagne, disons, plus elle avait tendance à voter pour les initiatives UDC. Donc ce qui est important, c'est de voir que plus une personne est cultivée, disons, ça peut être une personne qui a fait un apprentissage, qui a été à l'université, c'est pas ça qui est vraiment, disons, important, mais plus une personne est cultivée et plus une personne aussi, disons, côtoie la diversité, c'est, par exemple, on voit aussi que c'est vrai que les citadins ont peut-être moins tendance à être racistes que les gens de la campagne, sans vouloir faire ici déjà, de différenciation, mais c'est important, je crois. C'est à la fois s'ouvrir au monde intellectuellement et rencontrer aussi les personnes qui sont différentes. Et c'est deux composantes. Plus les personnes seront intelligentes et plus elles rencontreront, disons, l'altérité, moins elles seront racistes.
Romain Piou, il faut voyager au bout du monde pour arrêter d'être raciste.
Non, il faut simplement vivre avec une certaine forme de diversité et une certaine forme de tolérance qu'aujourd'hui l'école, en plus des parents, peut transmettre. On a une nouvelle loi sur l'enseignement obligatoire qui, entre autres, dit que l'école est partenaire des parents pour l'éducation également de l'enfant. Et je trouve que l'éducation, ça commence à se faire vraiment, c'est aussi des campagnes auprès des jeunes dans les écoles contre le racisme. C'est des semaines comme on va avoir ici, les semaines contre le racisme. C'est un certain nombre de choses comme ça. Ce qui est intéressant aussi à relever, et puis peut-être pour compléter ce que disait Loïc avant, c'est que vraiment, par exemple, l'initiative sur l'immigration de masse, à une exception près, il est bon de rappeler que les cantons où il y avait le plus d'étrangers sont les cantons qui ont le plus massivement accepté l'initiative. Refusé l'initiative contre l'immigration de masse, petit lapsus. Mais donc c'est intéressant de voir que finalement les zones où finalement c'est déjà extrêmement diversifié, on peut parler par exemple rien que de la ville de Lausanne, Renan par exemple, sont des lieux qui sont vraiment multiculturels avec énormément de choses très différentes. Et moi j'ai l'impression que c'est clairement ici que se ressent malgré tout, alors il y a une concentration de gens, donc il y a aussi, voilà, mais que c'est ici que les gens sont plus ouverts qu'effectivement, sans faire de généralité, dans la campagne où c'est effectivement plus dur. Et pas seulement pour le racisme, mais aussi si on étend par rapport à l'homophobie, par exemple, c'est des choses clairement qui, dans la campagne, sont plus difficiles, en tout cas, de discuter avec les gens.
Yann Silly, vous êtes d'accord avec ces propos ?
Je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention avant de chercher des corrélations partout, par exemple dans le cas précis entre le racisme, entre les campagnes et les villes, et de placer le nombre d'étrangers dans ces endroits comme étant la variable. Pour reprendre le dernier exemple que tu viens de dire, moi je ne crois pas qu'il y ait plus d'homosexuels dans les villes que dans les campagnes. Pourtant, tu as également dit qu'il était plus difficile là-bas de faire valoir ses valeurs. Je pense qu'il faut donc aller chercher les raisons ailleurs. Je tiens aussi à préciser que même dans les cantons suisses qui ont le plus faible taux de population étrangère, ce taux est plus élevé que dans des pays comme la France ou l'Allemagne, voire largement plus élevé. Donc je ne pense pas que la bonne variable qu'il faut regarder, c'est le nombre d'étrangers. Moi, je ne crois pas que pour ne pas être raciste, il faut avoir 10, 20, 30 ou 40% d'étrangers à côté de soi. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense qu'on peut très bien être en Appenzell intérieur et vivre en acceptation avec les étrangers. Et la deuxième chose que j'ai à redire contre cette statistique, elle est quand même très claire, c'est qu'on est en train de mesurer qui sont les gens les plus racistes en se basant sur une initiative populaire qu'on peut accepter sans être raciste. Personnellement, j'ai voté un très gros oui à cette initiative. Je ne me considère pas pour autant comme raciste. J'ai voté pour un système social, un système économique, un système institutionnel que je jugeais être une bonne chose. Je n'ai pas voté pour avoir moins de personnes issues de l'immigration en tant que telle. C'était pour un système politique et économique. Donc je pense que cette variable de racisme en fonction du nombre d'étrangers qu'on côtoie n'est pas plausible. En tout cas, on ne peut pas la prouver avec de telles données.
On reviendra sur la question des votations un peu plus tard dans ce débat, mais j'ai juste envie de redonner la parole à Romain Piou qui n'avait pas l'air du tout d'accord avec les propos de M. Thiem.
Alors, c'est peut-être un peu simple de faire une simple corrélation entre le nombre d'étrangers et l'acceptation ou non d'une initiative et le racisme. C'est un des éléments quand même à prendre en compte, à mon avis, surtout quand on voit à quel point ça a été médiatisé et c'est pas la seule initiative de l'UDC qui est dans ce cas-là. Ce qui est intéressant à rappeler, par exemple, c'est que dans les villes, il y a des choses dernièrement qui poussent aussi comme des champignons, c'est les maisons de quartier. les maisons de quartier qui sont, par exemple, typiquement un lieu de rencontre entre beaucoup de jeunes et moins jeunes aussi, et qui sont là aussi pour que les gens se rencontrent. Et je crois qu'on l'a bien dit aussi avant, c'est que d'avoir cette différence ou ces similitudes qui se rencontrent à l'école, c'est plus il y a de différences, c'est aussi plus simple de partager avec les autres et d'essayer de comprendre. C'est clair que moi, j'ai grandi dans un quartier plutôt non mixte, plutôt blanc, j'ai envie de dire. C'est plus difficile quand d'un coup t'as une personne noire qui arrive dans ta classe de comprendre. C'est juste ça la réalité, c'est que quand t'es un enfant, ce que tu ne connais pas, tu ne comprends pas, et des fois c'est difficile de l'exprimer. Et je crois qu'aujourd'hui, d'avoir des gens de toutes les cultures, de tous les pays, de toutes les religions, c'est clairement un moyen de lutter contre le racisme de manière générale.
Aline Rion, vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes de formation psychologue. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette question du racisme ordinaire qui touche tout le monde et surtout les gens qui ne sont pas amenés à être confrontés à la diversité?
Oui, alors moi je rejoins tout à fait les propos qui viennent d'être dits, où la diversité, ça amène quand même à plus d'ouverture, à mon avis. Alors après, je suis tout à fait d'accord qu'on peut vivre à la campagne et pas être raciste. L'un n'empêche pas l'autre. Par contre, d'être en contact avec des personnes migrantes, de connaître leur parcours, de connaître leurs différences, leurs similitudes, c'est quand même un moyen, je pense, de favoriser la tolérance.
On va passer à autre chose, mais qui reste toujours dans le même sens. C'est pas rare d'entendre en Suisse des propos islamophobes ou antisémites. Il arrive que des musulmans et des juifs de Suisse soient pris pour cible à cause, par exemple, de la politique de Netanyahou en Israël ou encore des exactions opérées par Daesh en Syrie. Loïc Autier, que pensez-vous de ces exemples d'amalgame entre politique et religion? Est-ce que c'est une cause importante de la xénophobie et du racisme en Suisse?
Alors, encore une fois, ouais, sans chiffres, c'est assez difficile de s'exprimer. On ne peut pas véritablement, disons, s'immiscer dans le fort intérieur de chaque individu et comprendre, disons, ce qui pourrait provoquer chez lui des comportements ou des pensées racistes. C'est évident que, ma foi, c'est propre au débat politique. On accepte que, on utilise certaines idées, certains préjugés. C'est vrai que dans ce domaine, l'UDC en a fait une spécialité. Après, ça se retrouve dans tous les pays. C'est notre démocratie aussi qui est une démocratie. Je pense que c'est une démocratie qu'on a assez peu pensée en général. On a l'impression que la majorité a toujours raison, donc on pense par là même que l'on peut tout dire. Alors, une différence encore une fois entre tout dire, être limité par la loi, et tout dire, être répréhendé moralement parlant par les gens, nos concitoyens. Maintenant, on retrouve dans tous les pays, France, il y a le Front National. En Suisse, il y a l'UDC, mais avec un profil quand même différent, qui n'est pas, à mon avis, un profil d'extrême droite. Je ne dirais pas que l'UDC est un parti d'extrême droite et je ne pense pas que c'est soutenable. Mais dans tous les pays européens, on retrouve cette mouvance populiste, qui est aussi des fois un peu à gauche, mais qui est quand même plutôt qualifiée des partis qu'on qualifie d'extrême droite. Donc, c'est très compliqué. Il n'y a pas de solution, légale. Alors ça, ce serait, je verrais ça comme la peste, de vouloir restreindre la communication ou l'expression de certaines idées. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les idées peuvent être prononcées sans aucune conséquence. Et pour moi, c'est le rôle de la société civile. On a beaucoup parlé pour l'initiative de mise en œuvre de la société civile. D'ailleurs, l'UDC s'est bien amusé ensuite à la dépriser. Mais la société civile, pour moi, c'est l'endroit où les débats ont lieu et c'est l'endroit où la sanction morale de paroles inutilement blessantes et de comportements qui seraient racistes doit avoir lieu, et surtout pas la loi.
Je vous remercie. Également, maintenant, abordons la question des supports au travers desquels les jeunes peuvent parfois déraper sur des propos racistes. Je veux parler ici de la démocratisation considérable des réseaux sociaux, qui offrent certes de nombreuses possibilités de communication et de partage, mais qui, il est bien connu, et on l'a vu lors de la précédente émission, peut parfois déboucher sur la non-conscientisation de ce que l'on y dit ou de ce que l'on y fait. De nombreux cas de racisme se déroulent donc sur le web, où le sens de la mesure pour les jeunes est difficile, ce qui conduit parfois à une banalisation des discriminations. Romain Pillou, Internet est-il une zone de non-droit ?
C'est pas censé être une zone de non-droit, mais Internet est difficilement contrôlable d'une certaine manière. Je pense que particulièrement sur les réseaux sociaux, où par exemple, il peut arriver fréquemment qu'on signale des commentaires que l'on juge complètement, mais pas à la limite, mais vraiment complètement racistes, avec des termes extrêmement violents, contre l'islam, contre les arabes, enfin contre tout ce qu'on peut imaginer. Et on signale ces commentaires et au final, on nous dit que ces commentaires respectent la charte de Facebook. C'est quand même des choses totalement invraisemblables. Après, nous, ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, ce qu'on lit vient des médias qu'on a ici en Suisse romande, le 24 heures, le matin, le temps, etc. Et par exemple, eux, sur ces sites internet, il y a énormément de commentaires qui pourraient être modérés, qui certains le sont. Hein. D'ailleurs, maintenant, il y a une modération avant le commentaire, tellement c'était violent à une époque. Mais on peut modérer si on veut ces commentaires. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est moyennement, voire pas très bien fait. On voit encore extrêmement de commentaires racistes. Et de ce que j'entends et de ce qu'on dit, et je suis totalement d'accord avec ça, c'est que le racisme n'est pas une opinion. Et il n'y a donc pas de liberté d'expression pour exprimer des propos qui peuvent être très, très, très violents envers des gens, et envers des ethnies, envers des religions. Et il faudrait qu'on puisse mieux contrôler. Ce qu'on peut contrôler, nous, en Suisse, c'est nos médias, pour certaines choses. Disons, pour éviter les excès, non pas des médias, mais des gens qui utilisent ces médias de manière très incorrecte. Et je crois qu'on peut agir d'une certaine manière, mais il faut un petit peu de rigueur. On avait eu en France la question, par exemple, aussi sur Twitter, où on avait eu aussi... bon, je reviens souvent sur l'homophobie, mais qui, pour moi, est une forme de racisme. Mais l'homophobie, ben, il y avait eu un tweet, un hashtag très, très homophobe. Et le gouvernement français avait demandé à Twitter d'agir pour effacer absolument tous les commentaires qui avaient ce hashtag, parce que c'était d'une violence inouïe. Et c'est là qu'on voit qu'on a un contrôle extrêmement limité et qu'il faudrait commencer à mettre des outils en place pour que ça change.
Alors justement, les outils, parlons-en. Est-ce que vous, Aline Rion, vous auriez des propositions concrètes ?
Ben, moi, par rapport aux réseaux sociaux et aux médias, j'aimerais quand même parler de la prévention chez les jeunes, surtout. Chez les enfants qui ont accès très tôt à ces médias, à des images qui peuvent être violentes, à des propos qui peuvent être violents. Moi, je pense que les parents, ils ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de leurs enfants. L'État aussi, par rapport à la prévention. Et je pense que l'école aussi a un rôle à jouer par rapport à comment aider les enfants à développer un sens critique par rapport aux images qu'ils peuvent voir et à ce qu'ils peuvent lire. Enfin, je pense que c'est vraiment un point essentiel. Parce qu'effectivement, Internet est assez incontrôlable. On ne pourra jamais enlever toutes les images et tous les propos... raciste ou pas seulement raciste, mais tout ce qui est aussi...
Toutes les discriminations.
Voilà.
Mmh. Tout à fait. Mais donc, du coup, à propos de prévention, il y en a eu. Hein. Moi, je pense à une campagne qui a eu lieu en 2015, qui a été initiée par la Commission fédérale contre le racisme, qui avait lancé cette campagne « Une Suisse à nos couleurs », où plus de 90 représentants d'associations, d'écoles et de particuliers avaient alimenté une page Facebook afin de diffuser en masse des messages de lutte contre le racisme. Johan Silly, est-ce que vous jugez ce genre d'action efficace ?
Disons, en tant que tel, tout ce qu'on peut essayer de faire pour limiter un phénomène nuisible est plutôt une bonne chose, une bonne intention, mais je ne pense pas qu'on peut limiter notre débat actuel. On parle réseaux sociaux, on parle école, on parle maintenant campagne fédérale. Je ne crois pas qu'on peut limiter ça sur le racisme ou sur l'homophobie. Moi, je crois que c'est des violences, toute forme de violence psychologique comme physique doit être combattue, que ce soit à l'école, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et je pense que des fois... Dans la perception qui est faite de toutes ces campagnes par les gens qui sont sujets à commettre des actes répréhensibles, ces gens-là ne vont pas vraiment, pas forcément être touchés par un Ribéry qui dit non au racisme à la télé ou par une affiche avec des personnes de régions et d'origines différentes qui disent la même chose. Donc des fois, je me demande si, au contraire, cette multiplication des campagnes différentes qui sont en fait... qui touche uniquement les gens qui sont déjà convaincus par le non-fondé de ces propos. Et je me demande des fois si c'est positif ou si même des fois, il ne pourrait pas y avoir un effet contre-productif. Donc je pense que c'est une question qu'il faut poser. Il faut voir chaque campagne indépendamment. Il y a par contre une chose où j'aimerais revenir, c'est en entendant mon collègue Romain Pillou placer dans la même phrase « contrôle les médias ». Je pense que ça reviendra un peu plus tard dans le débat quand on discutera de l'article 261 bis du code pénal sur la discrimination raciale. Je dois tout de même dire qu'a priori, j'ai jamais entendu d'histoires qui ont bien fini quand on commençait avec « contrôle les médias » dans une seule phrase.
Romain Piou, vous êtes étonné?
Ben, je pense que Johan Silly exagère un peu mes propos. Quand j'entends le contrôle, j'entends des modérations, et ça, il l'a très bien compris. Et effectivement, comme j'ai dit, le racisme n'est pas une opinion et n'a pas sa place. Alors je pense que la prévention, c'est le plus puissant des outils qu'on a aujourd'hui, qui se fait par le biais, effectivement, entre autres, de campagnes, parce que la prévention commence aussi jeune. C'est quelque chose de très important. Mais ça, il n'empêche que ça ne nous autorise pas, sous prétexte qu'il y aurait une liberté d'expression, de laisser des propos haineux sur Internet.
J'entends bien. Donc là, on aborde la question des préventions et donc celle des victimes. Qu'en est-il des jeunes qui, eux, ne sont pas toujours au fait de ce qui leur est offert en matière d'écoute et de conseils? Est-ce que vous pensez, Loïc Autier, que les infrastructures en la matière sont suffisantes aujourd'hui?
Alors tout d'abord, c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste de ces infrastructures-là. Évidemment, il y a à Lausanne, hein, le bureau d'intégration aussi au niveau cantonal. Je pense qu'il faut différencier deux interventions étatiques. Il y a une première intervention qui est une intervention d'aide ou d'intégration qui est tout à fait louable et que l'on doit accueillir et renforcer dans certains domaines et même dans certains cantons. Et de l'autre côté, il y a justement l'intervention qui serait dans la restriction et dans la répréhension pénale de certains propos. Là, je rejoindrai quand même Johan Silly sur le sujet. Moi, ça m'a toujours fait froid dans le dos quand on dit que le racisme n'est pas une opinion ou qu'une opinion ne soit pas une opinion. C'est plutôt la parole en tant que telle que l'on peut restreindre, que l'on peut condamner. Mais venir dire qu'une opinion n'en est pas une, c'est d'une certaine manière déshumaniser la personne, dire que le raciste est un sous-homme, et en tant que tel, c'est déjà, j'ai l'impression, adopter un comportement que l'on condamne et que l'on aborde. Donc moi, le souci, il est là. Est-ce qu'on est Dieu? Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas une opinion? C'est déjà un peu devenir une sorte de roi ou d'empereur qui imposerait une opinion aux gens. Et moi, il faut faire très attention avec ça. On l'a vu en France avec toute l'histoire, disons cette dramaturgie autour de l'affaire Dieudonné et Alain Soral notamment, où on arrive à dire ce n'est pas une opinion. Mais est-ce que les gens qui suivent ces personnes-là, en leur disant c'est illégal, ce n'est pas une opinion, est-ce que ça va changer leur opinion? Ou est-ce que ça va plutôt les réconforter? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux leur dire ce n'est pas une bonne opinion, c'est une opinion abjecte, car ABCD leur expliquer voilà, que ces idées-là sont tout simplement fausses, elles sont erronées, elles ne font pas partie, disons, elles ne sont pas à l'avantage du vivre ensemble. Donc à mon avis, le problème, c'est qu'en disant simplement ce n'est pas une opinion, c'est inacceptable, c'est illégal, on tue, et en plus, on risque même d'exaspérer le sentiment de racisme. On a aussi, peut-être notre psychologue du soir nous expliquait ce qu'on appelle le phénomène de réactance. C'est des gens qui ont l'impression qu'on leur interdit une opinion, qui sont par la même attirés par cette opinion-là, de la même manière qu'on dit le cannabis est interdit et des jeunes iront fumer. Donc il faut faire très attention de taire une opinion, plutôt de taire une parole, en disant que l'opinion qui est sous-jacente ne serait pas une opinion, c'est une sorte de... Moi, je trouve que c'est assez abominable, honnêtement, et je trouve même que c'est pire que le racisme de dire qu'une opinion n'en serait pas une. Voilà.
Aline Rion, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas exclure les personnes racistes de la société. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas condamner leurs actes et laisser des actes racistes avoir lieu sans conséquence. Après, moi, je pense quand même que quand on commence chez les enfants à agir... On peut parler des conséquences en communiquant et pas seulement dans la répression.
Tout à fait. Pour les questions justement d'écoute et de conseils, on voit qu'il existe énormément de choses en Suisse. On a énormément d'infrastructures en la matière, entre UNIA, l'association Romande contre le racisme, la ICRA, Ciao.ch, le service de lutte contre le racisme, etc. etc. Est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes sont un peu perdus parmi toutes ces possibilités, au sens où si moi, demain soir, je rentre chez moi, je me fais voler mon téléphone portable dans la rue, ben, je vais aller m'adresser au poste de police le plus proche. Pour des questions de racisme, on peut s'imaginer que ce soit un peu plus compliqué, Johan Silly.
Oui, ben, tout à fait. Moi, je ne connais pas grand monde hors milieu politique ou associatif qui puisse me citer plus de trois des associations ou sociétés dont vous venez de parler. Donc, ensuite, si des gens, si un groupe de personnes... vous voyez, moi, je suis pour la liberté d'association. Si un groupe de personnes voit qu'il y a un manquement, selon lui, dans la société et qui désire s'unir pour combattre ce manquement, j'y vois aucune objection. C'est même bien, c'est des gens qui s'engagent pour la société. C'est quelque chose que je ne peux qu'accepter. Ensuite, c'est vrai que pour la lisibilité des choses qui sont faites, il y a une plus grande difficulté qui n'est pas si grave que ça. Au final, moi, j'ai plus de problèmes avec des groupes publics, financés publiquement, et qui ensuite outrepassent leurs qualifications, telles que la Commission suisse contre le racisme, outrepassent leurs qualifications et leur raison d'être pour faire des campagnes politiques sur des sujets qui ne sont pas uniquement la lutte contre le racisme ou qui viennent donner des opinions très précises, voire tranchantes, avec l'argent du contribuable sur des personnalités politiques. Et j'ai beaucoup plus de problèmes avec les débordements, avec les choses mauvaises qui sont faites par des groupes que l'on finance plutôt que par des associations privées qui se battent pour un but tout à fait louable.
Vous avez des exemples de ces débordements ?
J'ai regardé ça encore aujourd'hui dans certaines de mes notes sur la commission contre le racisme, commission fédérale, qui a quand même pris une légère habitude de donner des points de vue avant diverses votations, des points de vue, plutôt des recommandations de vote, on peut dire. Je pense que ce n'est pas du tout son rôle. Moi, je crois qu'elle doit organiser le combat contre le racisme, c'est une très bonne chose. Elle doit organiser la lutte, elle doit organiser l'information contre la discrimination, contre les préjugés, contre les stéréotypes. Ce sont des très bonnes choses, mais je ne pense pas qu'on peut simplement dire tel domaine politique égale racisme, donc il faut comme ça donner un mot d'ordre. C'est des sujets beaucoup plus compliqués, beaucoup plus développés, et je crois qu'il y a une exaspération d'une certaine partie de la population. Si vous imaginez une personne qui s'est battue pour une initiative populaire, une personne qui n'a absolument aucun problème de racisme, qui s'est battue pour une initiative populaire quelconque, qui a fait 3 ans de récolte de signatures, et qui un jour se fait totalement casser par ses propres impôts en disant non, parce que si vous votez ça, c'est du racisme, ben moi je peux comprendre que cette personne va justement, comme ça a été expliqué plus tôt, avoir plutôt une tendance à s'opposer et à avoir une certaine hostilité contre ces mouvements. Et je crois que ça mettra en danger les autres personnes qui se battaient de bonne foi. C'est plutôt ça mon problème avec le milieu associatif.
Je vous remercie. Merci pour ces échanges et pour les propositions abordées à ces problématiques du quotidien. Avant de passer au deuxième volet de ce débat, je vous rappelle que nous sommes toujours en direct sur Radio Django, dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme du 15 au 21 mars, dont vous pouvez retrouver la totalité du programme sur www.semainecontreleracisme.ch.